Priorité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire auprès des populations à risque, particulièrement chez les homosexuels. Nous sommes à la clinique de confiance à Abidjan, qui est spécialisée dans la prise en charge médicale gratuite des personnes très exposées au VIH et aux maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire les travailleuses du sexe et les hommes ayant des relations homosexuelles. Cette clinique soutient aussi des associations de prévention.
C'est Kofi Igor Fleury. J'avais 6 ans maintenant. Mes parents savent que je suis homosexuelle. Ça ne me gêne pas. Je me sens bien de ma tête. Donc, il n'y a pas de problème.
Depuis quand vous avez dit à vos parents que vous étiez homosexuelle?
Depuis octobre 2009. Je ne leur ai pas dit directement. Ils l'ont appris d'un ami et ils ont mené les investigations. Ils m'ont appelé un jour, ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont dit que voilà. On sait que tu es homosexuel. Vraiment, nous sommes déçus. Ils ont même convoqué l'aîné de la famille, qui est venu depuis Daoukro, une ville intérieure du pays, qui est venu m'expulser de la maison, pour ne pas que je contamine mon cousin qui était là. Et il y a ma grand-mère qui a appris l'histoire, qui est venue à Abidjan. Et ma mère aussi qui vit à Paris, qui est venue 10 jours après. Elle a essayé de savoir ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'ils m'ont vidé de la maison. Il lui explique la situation. Apparemment, puisqu'elle vit là-bas, elle avait une autre mentalité par rapport à ceux d'ici. Du coup, elle m'a pris un appartement où m'a demandé de rester là, de vivre ma socialité comme je l'entends. Mais tout en restant sage, en faisant attention à mon image, à son image et à celle de la famille également.
Ça veut dire quoi, rester sage? Est-ce que ça veut dire se protéger, entre autres, contre le sida?
Oui, puisqu'en général, on dit que les homosexuels meurent tous du sida. Meurent tous jeunes, ils n'ont pas une réussite sociale comme il se doit. Donc du coup, c'est de me concentrer sur mes études, de tout faire pour valider mon diplôme, d'avoir un emploi stable et de vivre sainement ma sexualité.
Et ça veut dire donc que vous faites attention, vous vous protégez?
Oui, je me protège et j'évite le multipartenariat. De la communauté, on vous dira que je suis une référence. Parce que ça faisait 4 ans hier que je suis avec le même mec. Ouais, je suis un modèle de fidélité, un modèle de la communauté. J'en suis fière.
Est-ce que vous venez donc régulièrement à la clinique de confiance pour des questions de santé?
Oui, je viens en moyenne 2 fois par mois pour les consultations et tous les 6 mois pour le test VIH.
Voilà. Et alors aujourd'hui, je peux vous demander le résultat de ce test?
Il est négatif. Il faut dire que c'est pas un état figé. Ça peut changer à n'importe quel moment. Donc je fais attention à cela aussi pour ne pas que ça change. Voilà, en me protégeant bien sûr.
Vous avez aussi une association dans laquelle vous faites justement de la prévention sur le sida?
Oui, Arc-en-Ciel Plus. Nous faisons la prévention, la lutte contre les IST, VIH-Sida et l'homophobie. Et Arc-en-Ciel Plus existe depuis le 5 juillet 2003. Lorsque le ministère de la lutte contre le sida organise des conférences, organise l'atelier pour le plan stratégique national, il nous convie toujours.
Vous faites quoi comme études?
Actuellement, j'ai une BTS en comptabilité. Je poursuis mes études en audit contrôle et gestion. Je suis à ma 5e année.
Quel est le regard de vos collègues étudiants sur votre homosexualité? Est-ce que vous le dites? Vous évitez de le dire?
Pas que j'évite de le dire. Je ne me coince pas, je ne le mens pas. Lorsque le besoin se présente, s'ils organisent une fête où ils demandent à ce que chacun vienne avec sa petite amie, je leur dis que moi je n'en ai pas. Et que s'ils veulent bien, je peux venir avec mon petite amie. Ils se mettent à rire. Il y a certains qui prennent ça au sérieux, d'autres non. Mais ceux qui le prennent au sérieux creusent. Lorsqu'ils creusent, je leur dis sincèrement la vérité que voilà, je suis homosexuel.
Et alors, quelle est la réaction de vos collègues étudiants?
En général, tout dépend de la relation de base. Lorsque tu es dans une école, dans une classe où tu fais l'effort de ne pas choquer les autres, où tu fais l'effort d'être studieux, d'avoir de bons résultats, tout de suite, lorsque tu leur annonces ce genre de choses, ils ferment le là dessus parce qu'ils savent que malgré ton homosexualité, tu es une personne intelligente, une personne sage, une personne sur qui on peut compter, un ami. Voilà, donc ça passe.
À vous entendre, j'ai l'impression que vous ne souffrez pas de stigmatisation. Est-ce que c'est vrai ou pas si vrai que ça non plus?
Pas si vrai que ça, parce que des fois, lorsque je suis avec des amis très efféminés, on nous indexe. Ça me choque souvent. Mais bon, avec toutes les formations qu'on a reçues sur la stigmatisation, la discrimination, on arrive à contrôler cela. Il faut dire qu'actuellement, rien ne me choque. Qu'on me traite de PD, de tapette, de je ne sais quoi d'autre encore. Ça me glisse le corps. Lorsqu'on me traite d'homosexuel, je souris. Et si la personne devient très, 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 très agressive, je la regarde faire. Je lui dis que tel que moi, je t'accepte comme tu es. Fais l'effort de m'accepter comme je suis. Je ne demande pas de m'aimer, mais je demande juste de me respecter.
Vous avez dit que vous faisiez un travail sur l'estime de soi. Concrètement, ce travail consiste en quoi? Et puis j'imagine que c'est aussi des conseils que vous donnez dans votre association aux autres homosexuels.
Oui. Il faut dire que dans le milieu homosexuel de la Côte d'Ivoire, les personnes très efféminées sont très vite rejetées par famille et elles se mettent ensemble pour louer des maisons. Pas des maisons vraiment dignes de ce nom, des maisons en bois. Et généralement, ces personnes-là, lorsque elles sortent dans la rue, elles ont un besoin de se laisser aller. Donc du coup, comme on le dit dans le langage ivoirien, elles veulent choquer pour plaire. On leur fait comprendre que ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne manière de choquer les autres pour qu'ils nous acceptent. Non, il faut d'abord s'accepter soi-même. Tu n'as pas besoin de faire savoir à l'autre que tu es homosexuel.
Vous nous avez raconté, il y a quelques instants, la réaction de votre famille quand ils ont su que vous étiez homosexuel. Quel est leur regard aujourd'hui sur votre homosexualité? Est-ce que ça a évolué?
Oui, ça a beaucoup évolué. Au départ, ils ne m'appelaient plus. Quand je les appelais, ils ne décrochaient pas. Mais il faut dire qu'un an après, au cours d'une fête familiale, je n'ai pas voulu aller à la fête. Et c'est eux-mêmes qui sont venus me chercher à la maison. La maison que ma mère loue pour moi. Ils sont venus chercher là pour passer à la fête. Ils étaient tous là, ils étaient contents de me voir.
Et est-ce qu'ils vous reçoivent avec votre compagnon maintenant?
Oui, ils savent avec qui je sors. Ils me reçoivent avec mon compagnon. Au départ, ils ont pensé que c'était une prise de tête, que je voulais attirer leur attention. Mais ils ont compris que c'était ma vie. Voilà.
À quel âge vous avez découvert ou compris que vous étiez homosexuel?
Découvert n'est pas le thème approprié, compris peut-être. Faut dire que j'ai toujours ressenti ce penchant-là en moi et j'ai commencé à être actif sexuellement à l'âge de 20 ans, à ma deuxième année de BTS, en 2005.
Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ou pas?
Peut-être un peu sur l'un de nos amis qui a vécu une agression. La vidéo passe actuellement sur Internet. Il a été agressé par les ex-RFRC. Il faut dire qu'ils ont combattu et maintenant ils ont déposé les armes. Mais n'empêche qu'ils ont toujours l'autorité dans leur commune. Ils l'ont agressé, ça fait beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de versions.
Et ils l'ont agressé parce qu'il était homosexuel?
Oui, parce qu'il était homosexuel. Il avait une coupe afro avec des teintures. Ils l'ont coupé les cheveux, ils l'ont déshabillé, ils l'ont mis à poil. T'habilles comme une femme, c'était les quelques paroles qu'on entendait dans la vidéo. Comment un garçon peut s'habiller comme une femme, et à comment il marche, pédé, ainsi de suite. Bon.
Comment ça s'est terminé?
C'est très mal terminé. Il a été brutalisé, blessé, pas violé, il a été blessé. Ils ont même failli couper son sexe parce qu'ils ont dit que ça ne servait à rien. Mais bon, on a essayé de toucher un peu les autorités. Actuellement, il y a l'ONU-SIDA en Côte d'Ivoire qui est sur le coup. On nous demande de rapporter quelques témoignages de nos amis qui ont été victimes de ces agressions. Et ensemble, on va voir ce que ça va donner. On croise les doigts, on espère que ça va porter fruit.
Et il va comment, celui qui a été victime d'agression?
Ça n'allait pas du tout, mais actuellement, ça commence à aller. Il commence à reprendre goût à la vie, il commence à ressortir. Ça va. Mais la vidéo est toujours sur Internet.
Et la vidéo de son agression?
De son agression. C'est ça, c'est juste Internet. Je crois que si on tape...
Non, c'est pas la peine de nous le dire, c'est pas la peine d'aller voir. Je pense pas que ce soit bien.
Je suis d'accord.
Parce que la regarder, c'est entretenir la haine.
C'est ça, ça fait mal. Ça fait mal.
Priorité santé sur RFI.
La clinique de confiance d'Abidjan en Côte d'Ivoire assure une prise en charge médicale des IST, les infections sexuellement transmissibles, et du VIH, une prise en charge psychosociale des personnes affectées par la maladie. 5 médecins y travaillent, plus 6 autres personnes employées à plein temps. Le docteur Camille Anoma est directeur de la clinique de confiance à Abidjan. Là, on est en train de rentrer dans un bureau.
Oui, alors ici, c'est le bureau où nous faisons ce qu'on appelle les interviews. Donc, pour tous les patients qui arrivent ici pour la première fois, nous nous assurons donc qu'il s'agit bien de la population cible. S'il s'agit d'une femme, nous voulons bien nous assurer qu'il s'agit d'une femme qui se prostitue. S'il s'agit d'un homme aussi, on veut bien s'assurer qu'il s'agit d'un homme qui a des rapports sexuels avec les hommes. Et donc, nous posons un certain nombre de questions, que ce soit sur les caractéristiques socio-démographiques, les habitudes sexuelles, etc. Et nous donnons un dossier patient avec un identifiant. Et en ce moment, également, on demande à la personne si elle souhaite bénéficier du test de dépistage pour le VIH.
Mais comment vous posez ces questions qui sont quand même relativement indiscrètes, j'imagine?
Oui, alors, j'ai ma collègue qui travaille dans ce domaine depuis plusieurs années, puisqu'il faut dire quand même que pour la plupart, on a plus de 10 ans d'expérience dans ce milieu. Et donc, on a un langage qui est un langage complètement adapté. On essaie de mettre donc la personne en confiance. Et cette clinique s'appelle la clinique de confiance. Ce n'est pas par hasard. Et ces personnes donc sont amenées en général par les éducatrices. Donc, elles sont informées qu'elles vont avoir à répondre à des questions qui sont des questions indiscrètes. Mais une fois de plus, c'est vraiment... elles sont libres de répondre ou de ne pas y répondre. Mais on a cette habitude-là, comme ça, de les interviewer, de s'assurer qu'effectivement, il s'agit de la population cible. Il faut également dire que cette clinique a commencé quand même dans les années 92 avec la collaboration donc entre le CDC Atlanta, le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire et l'Institut de médecine tropicale. Donc nous, personnel donc de cette clinique, à partir des années 96, avons souhaité continuer donc l'œuvre une fois qu'il y a eu cette restructuration. Et donc depuis 2004, nous avons mis en place une organisation non gouvernementale qu'on appelle l'ONG Espace Confiance. Donc il y a eu la responsabilité de la gestion de cette clinique et donc de poursuivre cette mission. Donc la plupart des personnes que vous allez rencontrer ici dans le milieu des prestataires, c'est des personnes donc qui depuis pratiquement 96 sont engagées donc dans ce processus.
Vous êtes financé comment?
Alors nous avons plusieurs types de financement. Nous avons un financement qui vient de CDC PEPFAR.
Alors CDC, c'est le centre...
Center for Disease Control d'Atlanta.
Et, aux États-Unis.
Aux États-Unis, donc avec donc le fonds d'urgence du président américain, donc on appelle le PEPFAR. Donc ça, c'est une partie du financement. La seconde partie du financement vient également de SIDAction. La troisième partie du financement vient aussi du ministère de la Santé ici, au niveau de la Côte d'Ivoire.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail?
Alors, je pense que les difficultés principales que nous rencontrons au niveau du travail sont de source principalement financière. Tous les services ici sont gratuits. Et donc, nous avons besoin donc de ces financements pour soutenir tout ce que nous avons comme charge ici, que ce soit pour la location du bâtiment, que ce soit pour les charges salariales ou simplement pour le fonctionnement de la structure. Vous imaginez donc que quand il y a eu cette crise l'année dernière, nous avons terriblement souffert avec tous ces financements qui ont été coupés. Ensuite, on peut avoir...
Au moment de la crise électorale, tous les financements ont été coupés?
Oui, disons qu'au niveau de la crise électorale, on a eu principalement les financements, qui étaient quand même un financement assez important de CDC, qui n'est pas arrivé à temps, CDC PEPFAR. Donc, nous avons pu quand même bénéficier du financement de SIDAction, mais comme vous savez, les banques ont été fermées pendant un certain nombre de mois, et donc on n'avait pas ces possibilités donc, de recevoir de l'argent de l'étranger, et donc ça a été extrêmement difficile.
Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'aviez plus de quoi payer les salariés?
Voilà, concrètement, on n'avait plus de quoi payer les salariés, on n'avait plus de quoi faire face aux charges. Mais bon, on a quand même...
Vous aviez encore des médicaments, quand même?
Oui, alors on n'a pas eu de problème de rupture, que ce soit pour les médicaments ARV ou que ce soit pour les médicaments de soins de santé primaire. Mais il faut dire qu'au niveau du fonctionnement, ça n'a pas été facile. Et je remercie le personnel qui a fait preuve vraiment de beaucoup de compréhension et de patience vis-à-vis de cette situation.
Et vous avez rattrapé les salaires depuis?
Oui, alors les salaires ont été depuis rattrapés, la situation s'est confortablement améliorée. L'autre difficulté aussi que nous avons quelquefois, c'est au niveau, par exemple, des activités communautaires, quelques soucis avec, par exemple, les forces de l'ordre, etc. Bon, parce que un certain nombre de lois font que les prostituées ne doivent pas faire du racolage, etc. Donc, il nous est arrivé quelquefois d'intervenir pour qu'on permette à nos agents communautaires de quand même faire leurs activités. Donc, voilà un peu les difficultés que nous avons dans notre quotidien.
Priorité santé, reportage.
Aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge et de la prévention du sida dans la population homosexuelle en Côte d'Ivoire. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'un homosexuel de 42 ans qui fait partie de l'association Arc-en-Ciel Plus, une association de lutte contre l'homophobie et la discrimination des gays. Il a découvert sa séropositivité il y a 10 ans. Il nous explique quelle a été sa réaction au moment de l'annonce de sa maladie.
C'est la fin du monde. L'effondrement, je ne savais pas qu'on pouvait survivre au-delà d'un an ou deux. Là, j'ai vu la mort en direct en même temps. Et puis, il y a quelqu'un à qui je dirais toujours merci, qui s'est porté garant, si je peux dire ainsi. Il faut dire qu'à l'époque, les soins de santé étaient très chers. Ça coûtait pratiquement entre 350 et 400 000.
Donc, c'est ça, les antirétroviraux, qui sont les traitements du sida, n'étaient pas encore gratuits. Donc il a fallu trouver quelqu'un qui vous le finance. Et vous avez quelqu'un qui vous a aidé?
Ouais. Il m'a aidé, ce monsieur-là m'a aidé pendant 2 à 3 ans, pratiquement. C'est grâce à lui et à certains amis que j'ai pu supporter le coup. Et puis, bon, on a eu la chance, maintenant c'est gratuit.
Maintenant c'est totalement gratuit pour vous?
Totalement, oui. Au niveau de la clinique, tout est gratuit.
Vous avez l'air d'aller bien aujourd'hui, je me trompe?
Ça va très bien d'ailleurs, ça va.
En quoi consiste votre traitement, les antirétroviraux? Vous prenez combien de cachets par jour, à quel moment?
Là, je prends 4 cachets 2 fois par jour. Un le matin à 7h et puis le soir à 19h. Il faut compter 12 heures de temps d'intervalle.
Donc, est-ce que vous les prenez bien, vos cachets?
Bon, il fut au moment où je ne respectais pas les heures, en fait. Je ne respectais pas les heures de prise. Souvent, j'oubliais. Et puis, bon. Mais sinon, intérieurement, mes taux de CD4 sont actuellement très bas. Et...
C'est-à-dire, ils sont à combien?
Je suis à 10. Bon, là, je me suis entendu trembler pendant que j'en parle. Mais j'ai décidé de les suivre, scrupuleusement les heures de prise. Bon, depuis un moment, j'ai mes portables, quel que soit l'endroit où je me trouve, je les ai toujours sur moi, et puis bon, je les prends.
Ça veut dire que votre portable sonne à 7h et à 19h, et les cachets, vous les avez sur vous, dans votre poche, là?
Bon, là, je viens du boulot, c'est la prise de ce soir au boulot. Comme je retourne tout à l'heure, j'ai la prise d'avant.
Qu'est-ce que vous faites comme travail?
Je suis dans la restauration.
Est-ce que vous avez dit à votre entourage votre séropositivité? Quelle a été la réaction alors? Parce que vous me faites oui de la tête.
Bon, les premiers temps, ça a été difficile. La deuxième année, mon bienfaiteur a commencé à s'essouffler quand même. Donc il a demandé que j'en parle à mes parents. Et bon, j'ai réuni tout le monde. Et ça a été la catastrophe. J'ai pas reçu l'aide escomptée.
Et ça a été la catastrophe par rapport à votre maladie, la réaction, ou par rapport à votre homosexualité?
On m'en a jamais parlé, mais la séropositivité, ils savent. Au début, ils ne savaient pas comment ça se contactait. Donc, pour rester la peur bleue, carrément, couper tout pan avec moi, on ne s'appelait qu'au téléphone. C'était difficile. S'il n'y avait pas les amis que j'ai en ce moment-là, je ne sais pas si j'allais être mieux. Quoi. Mais depuis... De l'eau coulée sur le pont, ils ont compris. J'ai fait même des sensibilisations auprès de certains membres de ma famille. J'en parle, pour moi, il n'y a plus de tabou.
Et maintenant, est-ce que vous êtes raisonnable? Vous vous protégez bien?
Ouais, c'est l'abstinence totale en ce moment.
Ah non, mais c'est pas l'abstinence, la question c'est de se protéger, non, c'est pas ça.
Bon, les fois où j'ai eu l'occasion de le faire, je me suis protégé. Voilà.
C'est compliqué justement de vivre son homosexualité en Côte d'Ivoire, à Abidjan ?
Moi, je dirais que non. Les gens sont pas pourchassés. Et on retrouve des homos dans toutes les couches sociales. Et puis, non, les gens sont libres. Mais maintenant, là, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, il y a au moins un ou deux homos. Donc, les gens acceptent facilement.
Vous dites non, c'est pas difficile, mais avec ça, vous l'avez pas dit à votre famille, vous n'en avez pas parlé.
L'occasion s'est pas présentée. Et puis, il faut dire qu'à l'époque aussi, j'étais bi. Bon, peut-être que avec l'âge maintenant, je me sens de plus en plus seul. Bon, il faut trouver un partenaire à qui dit sa séropositivité. J'avais une relation vraie, pas d'un truc dangereux et puis bon.
Et ça veut dire que la maladie complique quand même la relation amoureuse?
Oui, parce que moi, j'estime que dans une relation à long terme, il y a quand même une certaine franchise. Je suis obligé d'en parler, de dire à mon partenaire, voilà ma situation. Mais voici ce qu'on peut faire pour ne pas t'exposer toi. Quand il comprend, quand il ne comprend pas, bon.
Et quand vous le dites justement à vos partenaires, quelle est la réaction? Est-ce qu'il y a de temps en temps une réaction de rejet?
Ce qui veut que je suis fermé maintenant, il y a eu trois tentatives. Et les trois tentatives ont été des tentatives de rejet. Ça a été très dur. Je dis que je suis condamné parce qu'il y en a qui ne disent pas et qui le font sans protection. Donc ils sont lésions dans le milieu. On les condamne pour ça. Moi, je me vois mal en train de...
Donc... De faire la sensibilisation d'un côté et pas de se protéger de l'autre, j'imagine, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, c'est ça.
Et vous avez été marié?
J'étais sur le point de me marier à deux reprises. Mais ça foirait à chaque fois. Voilà. Sinon, mes partenaires savaient que je ne l'aurais pas caché.
Quoi, vous ne leur avez pas caché? Votre séropositivité ou votre bisexualité?
J'ai eu la chance, dans mon côté hétéro, de tomber sur des filles assez larges d'esprit. Les deux fois où j'ai failli me marier, elles ont accepté...
Est-ce que vous avez l'impression justement que la société ivoirienne est peut-être plus ouverte que d'autres sociétés de pays africains?
Oui, je le dis sans hésitation. La société ivoirienne est plus ouverte. Parce que la façon de vivre des homos ici, la liberté qu'on a ici, on ne la retrouve pas dans d'autres pays. Ici, on peut parler à visage découvert, on peut se promener, on peut faire tout ce qu'on en envie. J'évite de ne pas déranger les gens, c'est tout.
Est-ce que vous avez l'impression que quand même une forme de stigmatisation qu'il peut y avoir sur la communauté homosexuelle complique l'accès aux soins de façon générale? Par exemple, le dépistage du VIH-Sida, les campagnes de prévention ou pas?
Moi, je pense qu'il y a une certaine peur de la communauté de faire une sensibilisation à grande échelle. Ce qui fait que les sensibilisations sont dans le ghetto. On a, à ma connaissance, il n'y a pas eu de démarche pour avoir accès aux médias, qu'on nous a refusé. Ce sera un visage découvert, chose que beaucoup de personnes ne veulent pas. Mais si on accepte de le faire, je pense qu'on va toucher beaucoup de personnes. Sinon, il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de stigmatisation. Non. Il faut que les gens, il faut qu'ils arrivent à se dire que il n'y a pas que des hétéros en Côte d'Ivoire.
Merci à la clinique de confiance d'Abidjan de m'avoir accueilli, à tous ces hommes qui ont accepté de témoigner. Une émission réalisée en partenariat avec l'INPES, l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé. Demain, on parlera du bégaiement. Comment corriger le bégaiement? Est-ce possible de guérir ce trouble du langage? Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22. Merci à Didier Bleu qui a réalisé cette émission. Au revoir à tous et à demain. Ça dérange, ça dérange, allez, ça dérange, ça dérange, allez.
les cas dérangés, ça dérange. Pas les cas dérangés, ça dérange.
Maman Fatou Koulibaly, Papa Jean-Yves, DJ Djalba.
Wow, wow. Les 5 étoiles et 100 réveillés. Ça va déranger tout à Bidja. Wow, wow. Les 5 étoiles et 100 réveillés. Ça va déranger
Bichon
tout
le pétrolier. Allez, Joël et Sarkozy, oh. Il faut t'aimer tes chaînes, Papa. Wow.